Brisons la glace.
Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brisons la glace, le podcast francophone de Norvège. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la suite de notre entretien avec Thomas Lundbo, traducteur norvégien émérite. Après avoir parlé de ses débuts dans le monde de la traduction et sa passion pour la langue française, nous continuons à explorer sa relation avec la littérature à travers les époques, ainsi que les différences culturelles entre la France et la Norvège. Et pour commencer, nous reprenons notre entretien avec la question qui met les pieds dans le plat. Bonne écoute.
Est-ce qu'il faut forcément être auteur pour être un bon traducteur
ou... Non, pas du tout. Non, au contraire.
Non, au contraire.
Il faut surtout... Ce qu'il faut savoir, c'est de construire des phrases littéraires en norvégien, bien ouais. sûr. Mais il faut aussi comprendre les différences entre les La moyens culture, d'expression ouais. en français ouais. et en norvégien. Et il faut ajuster un peu pour... Et on s'apprend des techniques pour manipuler le syntaxe, surtout.
Ouais, et comment on compile un style, surtout.
Oui.
Il faut se mettre dans la peau de l'auteur, quoi.
Il faut avoir, disons, une oreille pour les différences de style et pour essayer de recréer des styles en norvégien. Et souvent, j'ai l'impression que les écrivains... Souvent sont trop attachés à l'ordre de mots en français. Et moi, je préfère manipuler un peu la syntaxe pour que ça devienne vraiment de la littérature norvégienne.
Ouais. Est-ce que l'Oulipo, il est applicable à...
Oui, bien sûr. Mais il faut surtout appliquer les techniques. Pas forcément le sens, mais les techniques sont plus importantes que le sens. Sémantique.
Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Oulipo, donc je te laisse. Bah, tiens, laissons Thomas expliquer l'Oulipo.
Ça veut dire ouvreur de la littérature potentielle. Ouais. Potentielle. Et leur but, c'était surtout de créer des techniques
de recherche
pour créer de la littérature. Ouais. Leur but, c'était pas forcément de créer des œuvres, mais créer des règles d'écriture ou ce qu'il appelait des contraintes. Ouais. Contraintes pour écrire. Par exemple, c'est un des exemples les plus connus. Pareil qu'il a écrit un lipogramme, c'est un livre où il y a des lettres qui sont exclues et là, c'est sans le E.
La disparition.
La plus utilisée en français.
C'est très dur d'écrire un livre.
En norvégien aussi.
Disparition, ça a été traduit en...
Non, j'ai traduit l'avant-propos, mais peut-être que dans ma retraite, je vais essayer.
S'attaquer...
Mais j'ai traduit d'autres livres de lui, pas tellement réglés comme celle-ci, mais la dernière, j'ai traduit un de ses premiers livres qui s'appelle « Quel petit vélo » ou « Un guidon chromé au fond de la cour ».
Ouais. Je l'ai pas lu.
Non, c'est un mélange de un peu de tout. Vraiment. Ouais. Mais là, il faut inventer aussi des trucs norvégiens pour
rendre ça un peu digérable.
Ouais. Non, pas pour mais pour garder l'esprit du livre. C'est surtout ça. Garder ces jeux de mots, on ne peut pas traduire le jeu de mots comme mot pour mot. Ça n'a pas de sens.
Ça ne marche pas, surtout.
Il faut inventer un jeu de mots en norvégien aussi.
Ah oui, donc du coup, ça devient vraiment un Oulipo.
Ouais.
Ça se fourne la queue.
Emma, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale pour nous aérer un petit peu.
Alors, comme on a parlé de Houellebecq, et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a fait un album quand même, car Michel a tout fait. Ouais. Michel a tout fait.
Il a
fait que des films porno.
Il a fait du porno, même.
Mais pas que. Il a aussi fait des morceaux un peu love. D'ailleurs, j'ai changé un morceau où il a un peu une voix presque érotique, j'ai envie de dire.
Bon, bah.
Qui s'appelle Séjour Club, si ça veut bien marcher.
Bonne écoute.
L'agitation du corps, traverse ma rétine, sans éveiller en moi aucun désir vivant. Brisons la glace.
Eh bien, merci Michel Houellebecq pour cette chanson Séjour Club. Sensuelle.
Ouais, n'est-ce pas, hein ?
Très bien. On est de retour dans notre émission avec notre invité spécial Thomas Thunbo. On a parlé traduction avec toi. On voulait continuer un petit peu. Parle-nous de cette nouvelle version du Petit Prince. Quelle a été, parce qu'il y a déjà eu une traduction.
Oui, pas mal. Il y a déjà eu pas mal de traductions. Alors, je pense que le motif de l'éditeur était plutôt économique. Parce que c'est un livre qui se vend toujours assez bien en Norvège. Et là, c'était pas du tout la première fois que ça a été traduit. Je pense qu'il existe au moins deux versions avant moi. Et en fait, il y avait un autre éditeur qui sortait aussi une autre version en même temps que moi.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Et juste avant moi, petit fun fact, il y a eu une version en néo-norvégien. Je ne sais pas si l'auditeur Nynorsk connaît ça, mais c'est la langue de Jon Fosse. Et c'était Jon Fosse qui a traduit en néo-norvégien.
D'accord.
Ouais. Donc, il y a aussi, je pense qu'il y a 3 ans, 4 ans, une version de Jon Fosse de ça.
Mais donc, exclusivement en Nynorsk, alors que toi, t'es en Bokmål.
Exclusivement en Nynorsk.
Toi, c'est en Bokmål.
Moi, c'est en Bokmål. Ouais, OK. Ouais. Donc, là, c'était quelque chose que j'ai lu quand j'ai appris le français, comme beaucoup de monde. Je pense que c'est un livre qu'on donne souvent aux étudiants parce que c'est assez facile, c'est assez charmant, c'est assez connu. En fait, je l'ai trouvé, moi, maintenant, un peu daté. C'est un peu l'esprit 68 ard, tu vois, l'enfant est plus intelligent que les adultes. Il faut garder l'habitude et...
C'est pas un peu norvégien C'est pas un peu norvégien de se mettre à égalité avec l'enfant aussi?
Oui, peut-être. Peut-être. Mais il faut, tu sais, il faut garder sa capacité de rêver, de garder sa fantaisie. J'ai trouvé un peu naïf quand même. Et j'avais l'impression aussi que c'était plutôt écrit pour les adultes.
Ah oui, tout à fait. Ouais.
Bah, de toute façon, c'est ce qui ressort quand Le Petit Prince est publié, c'est que même Saint-Exupéry, c'est pas trop, en fait, s'il faut caser ça dans le rayon enfant ou dans le rayon adulte.
Non,
en fait.
Moi, c'est un... J'ai trouvé un peu... comment dire... pour être un peu méchant, de la philo à 2,50 francs pour les adultes, pour être un peu méchant. Mais en même temps, c'est quand même c'est une belle histoire, c'est un livre charmant, on aime vraiment ce caractère de petit prince et ce personnage. Ça a gardé un peu la magie aussi. Mais en fait, j'ai été un peu étonné parce que je pense que ça n'a pas... vraiment très bien vieilli.
Et est-ce que ça a autant de place dans la littérature norvégienne, Le Petit Prince, que ça l'est en France?
Comment?
En France, j'ai l'impression que c'est quand même
c'est un classique qu'on offre, je pense, à tous les enfants, comme avec la girafe.
C'est un peu comme ça en Norvège. Ouais. Aussi, ouais. C'est quelque chose qu'on offre à...
Les enfants de 8-9 ans, quoi.
Oui, c'est un peu ça.
Et du coup, quand on parle de réédition du Petit Prince et tu te lances dans la traduction, est-ce que tu repars de zéro ou est-ce que tu...
Non, enfin, j'essaye de partir de zéro. J'ai fait ça une fois avant. J'ai traduit le père Goriot de Balzac.
Ah oui,
là aussi, il existait
aussi,
deux ou trois traductions avant moi. Il y avait une aussi qui était assez connue. Mais bon, j'essaye quand même de faire comme si c'était la première fois pour garder ma propre curiosité sur l'œuvre.
Mais après, tu compares avec tes changements?
Oui, je compare après. Et évidemment, à chaque fois que je tombe sur une difficulté, je consulte l'autre traduction. Ouais. Et d'autres traductions en d'autres langues aussi.
Et c'est quoi ton état d'esprit quand t'approches des phrases très connues du Petit Prince? Genre, quand, par exemple, c'était « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton », t'as vraiment fait abstraction de l'autre...
Avec le vouvoiement, le tutoiement.
Ah ouais. oui, là, je suis tombé sur le tutoiement.
Ouais.
Ouais. Parce que j'ai aussi essayé de faire comme si c'était un livre pour les enfants. Mm-hmm. Même si ce n'est pas tout à fait le cas. J'ai essayé de faire comme si, quand même. Et là, le vouvoiement, un enfant norvégien ne va pas le comprendre. Mm-hmm. Parce que c'est inexistant en Norvège pour l'instant. C'est quelques vieilles gens qui l'utilisent. On est habitué, comme lecteur, on le voit souvent dans les vieilles livres. Mais sinon, le vouvoiement, c'est complètement tombé dans des études en norvégien. Mmh. Ouais.
Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de te casser la tête pendant... Parce que Saint-Exupéry, apparemment, quand il écrit Le Petit Prince, il pouvait écrire des dizaines de pages avant de tomber sur une phrase, alors, peut-être pas une phrase, mais genre une page. Est-ce que t'es arrivé dans une situation d'une certaine complexité à un moment
qui t'empêche de dormir?
pas tellement dans ce livre. Non.
Est-ce qu'il y a un auteur en particulier qui, pour vous, a été plus difficile à traduire que d'autres ou...
Balzac.
Balzac, oui.
Ouais. Ah ouais, c'était l'horreur. Vraiment. Et c'était tellement dense. Et il y avait des pensées qui allaient dans tous les sens et qui étaient mélangées aussi le niveau temporel complètement. Dans la même phrase, il pouvait faire référence à trois trames différentes. Ça a changé tout le temps et des phrases qui faisaient 3 kilomètres.
3 kilomètres, oui.
Ouais, là, c'était vraiment c'est l'œuvre la plus difficile que j'ai faite.
Est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il y a des auteurs que tu aimerais traduire, que tu n'as pas encore traduit, des œuvres plutôt modernes?
Pas tellement modernes, mais c'est surtout un livre qui c'est un écrivain de la fin du 19e siècle qui s'appelle Marcel Schwab. Il a eu, c'est un petit classique qui s'appelle Vie imaginaire, que j'ai très envie de traduire. J'ai traduit un petit récit de lui sur la croissance des enfants, mais j'ai vraiment envie de traduire ça. Bien sûr, il y a d'autres aussi, mais c'est vraiment...
Celui qui tient à cœur.
Ouais, ouais.
Et du coup, tu vas toquer à la maison d'édition
et
tu vas dire, je me propose...
Quand j'ai le temps. mais j'essaie d'avoir le temps d'écrire moi-même aussi de temps en temps, donc... Il est difficile de trouver du temps.
Alors justement, moi j'ai une question par rapport à tes livres que j'avoue, nous n'avons pas lu ce soir car...
Notre Norvégien est pas au niveau.
Moi, j'ai travaillé en anglais depuis que je suis là, donc c'est un peu la cata à la lecture en tout cas. Du coup, il n'est pas du tout trouvable en français, mais alors pourquoi tu ne t'es pas auto-traduit?
Non, mais là, c'est pour traduire ce que j'ai essayé de dire. C'est, il faut vraiment comprendre, pas forcément le langage de source, mais le langage...
De l'arrivée, oui.
Oui, ouais. C'est le plus important. Et tant que je ne suis pas... Le français, ce n'est pas ma langue maternelle.
Oui, c'est ça. Donc.
Et je peux construire des phrases, et surtout en écrit, des phrases correctes. Mais ce n'est pas vraiment de la littérature. Donc aussi, ça aurait été un travail énorme pour moi de faire ça. Il m'aurait fallu googler tout le temps pour savoir.
Ouais, pour être sûr.
Pour être sûr si ça se dit vraiment en français. Ouais. Ouais.
Et est-ce qu'à l'inverse, non pas à l'inverse d'ailleurs, mais est-ce que tu es capable d'écrire en ninorsque?
Non.
Non, là non plus, là aussi, dans la forme de la langue, du coup, le ninorque, c'est quoi? C'est pas du latin, mais c'est...
Je suis capable de construire des phrases là aussi, mais je parle même vraiment le sens. C'est un peu la même chose, tu vois. Je peux construire des phrases correctes, ouais. mais je prends le sens vraiment de cette langue.
Ouais, parce que pour nous, je crois que c'est vraiment le Famon Lineur, c'est mon cauchemar. Ouais. Parce que déjà, j'ai d'apprendre le Bokmal, de m'en sortir avec les dialectes. Et ouais. Le Nynorsk au milieu, là, c'est genre, non, là, attendez, ouais, c'est ouais. trop. Ouais. Le danois et le suédois, ça fait vraiment beaucoup, là, d'un coup.
Par rapport à France, il y a beaucoup de... Les dialectes en Norvège sont beaucoup plus importantes qu'en France. Ouais, ça, c'est sûr. Et déjà, le fait qu'on a deux langues, deux standards officiels.
Ouais, juste officiels, ouais, d'ailleurs. Hein.
Par contre, la France, c'est très monoculturel. Au niveau de langue.
Ouais. Oui, mais je lisais juste, j'ai réécouté tout à l'heure des bouts de Queneau aussi qui parlait, quoi, de Raymond Queneau, qui parlait de la langue française. Et il disait que pour lui, la langue écrite, c'est pas du tout la même que la langue parlée. Non, c'est comme si on parlait du latin et du français. Quoi, voilà.
Le mot beauté, P-A-U, oui. Pour exprimer un son.
Oui, c'est vrai, c'est beau.
On aurait pu l'écrire avec
un mot. Non, mais c'est vrai. Non.
Et c'est du reste de... Parce que je pense que la langue française écrite, ça date du 11e siècle, je ne sais pas. C'est un peu comme ça. Une fois, c'était biaou, biaout.
Ouais.
Un peu comme ça, ouais. Mais en anglais, c'est beautiful.
Ouais,
et il y a des restes.
Oui, il y a des restes. Ouais.
Mais Rabelais, tu l'avais lu en français ?
Oui, bien sûr, en moyen français.
Comment t'as fait ? Parce que, enfin, je veux dire, moi, c'est quoi ? C'est Gargantua ?
Gargantua, Pantagruel.
J'ai abandonné, quoi.
Oui, oui.
Enfin, ouais, je suis vraiment admiratif de ça. Ouais. Tu t'es découragé à un moment où tu t'es dit, là, il faut vraiment que je l'aie, ce livre.
Oui, oui. Mais il faut consulter les dictionnaires. Comment on fait quand on lit une langue étrangère ? Alors, pour moi, c'était pas... La différence n'était pas tellement énorme, parce que déjà le fait de lire le français, ça me demande... et surtout à l'époque, ça demandait un effort. Donc, j'avais l'habitude de faire des efforts pour lire.
Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans le livre de La Bruyère, Les caractères ? Parce que j'ai pareil, je l'ai emprunté pour ces vacances, pour préparer cette émission. j'ai pas réussi à lire 50 pages.
Non.
Dur.
oui, c'est dur. C'est vrai. C'est la littérature du 17e siècle. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que lui, il présente cet ouvrage comme une traduction. Une traduction du philosophe grec Théophraste. Et en fait, quand il a sorti ce volume, ça a commencé avec une traduction des 28 caractères de Théophraste qui était connu à l'époque. Et il a dit aussi, et son propre ouvrage, c'est-à-dire les caractères de La Bruyère, c'était présenté comme une espèce d'appendix à la traduction.
D'accord.
Mais il y avait beaucoup de nouvelles versions parce que ça a pas mal vendu. Et donc, l'appendix a continué à grandir. Par contre, la partie avec la traduction est restée assez de plus en plus. C'est devenu de plus en plus petit.
Oui, par rapport à l'appendix, oui.
Mais en même temps, c'est présenté comme les caractères des Théophrastes avec les caractères ou le morse de notre temps. Je me rappelle plus tout à fait le titre exact, mais là, c'était pour moi comme traducteur, c'était ça que je trouvais intéressant. Et je me suis dit que si on allait traduire ça en norvégien, il va falloir de le faire de la même façon. Donc je me suis dit que j'ai envie de présenter cette œuvre pour le public norvégien, mais il faut que j'ajoute ma propre version de ces caractères. Et pour moi, c'est devenu un espèce de jeu où j'ai caché un peu les traductions et j'ai fait mes propres versions, j'ai tout mélangé moi. Par rapport à lui, il y a deux sections complètement différentes dans le livre physique. Et chez moi, c'est tout mélangé. Et j'ai donc j'ai copié ces chapitres et j'ai fait mes propres quelques traductions, quelques nouvelles caractères qui étaient complètement mon invention à moi. Et quelques mélanges où j'ai eu, j'ai tiré une idée de lui et j'ai fait ma propre...
Ouais, ta propre adaptation, ouais, quoi.
Ma propre adaptation. Et pour moi aussi, c'était un moyen pour m'exprimer sur la société norvégienne avec une masque. Avec une masque qui était la masque du XVIIe siècle. C'est devenu de plus en plus intéressant pour moi de le faire comme ça. Mais c'est devenu un jeu et une façon d'écrire. Et là, c'est ça que je trouvais le plus intéressant dans le livre de Labria. Parce que lui aussi, il a commencé par essayer de faire comme si c'était une traduction. Mais donc, c'est devenu son propre œuvre.
C'est marrant, tout à l'heure, bref, j'ai cherché des informations sur toi, voilà. Et sur un de tes petits portraits, j'ai mis Google Traduction pour voir. Et ça, on parlait donc en norsk. Han har tillegg hatt en lang virke som oversetter og gjendiker. Et donc, en français, on me dit, il mène également une longue carrière de traducteur et de paraphraseur.
Est-ce que c'est la bonne traduction?
Est-ce que c'est la bonne traduction? Ouais. Le mot yendicté.
Ouais, et j'ai trouvé ça assez marrant, en fait. Okay.
Non, mais yendicté, c'est ce qu'on dit en Norvège quand on traduit de la poésie. C'est ça.
Et du coup, alors en français, c'est devenu paraphraseur, ce qui est assez...
Oh, c'est un peu bizarre.
C'est un peu bizarre, et à la fois, c'est assez marrant.
Par contre, la poésie, il est difficile de faire la paraphrase.
Eh ben non, mais... Ouais.
Là, il faut être plus précis et garder souvent aussi l'ordre de mots. Donc, la paraphrase est souvent exclue en poésie. Donc, c'est l'opposé.
Ouais,
mais même, non, en norvégien, il est vrai qu'on a deux mots pour traducteur. C'est pour traducteur de... pour traducteur littéraire. C'est traducteur de prose, c'est traducteur. Et traducteur de poésie, c'est yendicté. Ah. Parce qu'on écrit des poèmes, des dictes en norvégien.
Ok, ben on a une explication.
Ouais. Question un peu provoque.
Ouais.
Est-ce que tu te sers de l'intelligence artificielle pour traduire des phrases comme ça qui te t'arrivent pas à...
Non, en fait non.
Et qu'est-ce que tu en penses
Je sais pas. Je pense pour un traducteur, ça peut être un outil intéressant quand même. Je pense que pour beaucoup de traductions, je pense aussi que cet outil va remplacer le traducteur humain.
Mais pas le traducteur littéraire.
Non. Et surtout, pas encore. Mais c'est, je pense pas que c'est complètement impensable, quand même. Parce que c'est le progrès qu'ils ont fait...
Ouais, là, en moins de 2 ans, là, c'est juste dingue.
C'est assez incroyable, quand même. Donc, mais aussi, c'est pour moi, comme traducteur de français, c'est... Tu vois, le corpus pour entraîner l'intelligence artificielle, c'est surtout l'anglais. Donc, les traductions entre français et norvégien ne sont, sont pas au même niveau que les traductions entre, par exemple, anglais et français.
Et peut-être question un peu plus littéraire, mais comment tu définirais... Est-ce que tu vois un rôle à la littérature, en fait?
Question philo, là.
Alors, vous avez combien de temps?
Ouais. Comment dire,
Thomas, une minute.
Voilà, qu'est-ce que l'art, Thomas? Qu'est-ce que l'art?
Je vais distinguer un peu entre prose et poésie, et la fiction et la poésie. Je pense que pour la poésie, c'est une façon de renouveler le langage, d'inventer le langage, et surtout aussi de faire grandir les possibilités du langage, d'expérimenter avec le langage. En fiction, je pense que le rôle de la littérature, c'est de s'apprendre de s'imaginer le monde en d'autres façons.
Une belle réponse. On va s'arrêter sur cette belle réponse.
Une belle dichotomie.
Faire une petite pause musicale. Avec ton choix, Valentin, tu avais proposé Mr. Apple. comme chanson.
Oui, c'est ça.
Avec un S au pluriel.
Oui.
Mr. Apples.
Brisons la casse. Eh bien, on a écouté Mr. Apple. C'était quoi le titre?
Mr. Apples de Madness.
Ah oui, c'est de Madness. C'est Mr. Apple, le titre de la chanson. Et pour terminer notre émission, on brûlait d'impatience de te poser plus de questions, Thomas. Donc, allons-y.
Une dernière. Est-ce que tu t'intéresses un peu à tout ce qui est le renouveau de l'écriture française? Donc, genre l'écriture inclusive, qui est justement les expressions qui sont maintenant populaires chez les jeunes. Que tu t'intéresses à tout ça, est-ce que ça va être...
Ça veut dire la littérature inclusive.
Eh ben, tu sais, pour, au lieu de dire « il » ou « elle », avant c'était toujours le masculin qui gagnait.
Oui,
maintenant,
sûr.
On met « il » point « e » l « l » e « s ». Enfin, « yel ». Voilà, il y a le « yel ».
Oui, c'est intéressant, mais on a le même phénomène.
Ah, il y a la même chose en norsk.
Oui, oui. Il y a au lieu de « han » ou « hun », on dit « hen ». Ça, donc, je pense que c'est un banc qui est mondial pour
mais
pour
c'est vrai qu'en français, ça rend le truc...
Disons, occidental.
Ouais, ouais, ouais.
Mais les Français se déchirent par rapport à l'écriture inclusive.
Parce que ça, parce qu'on rajoute des points, on met EL, évidemment, on ne va pas faire ça simplement.
La solution norvégienne pour le pronom personnel, ça marche assez bien.
Ça marchait mieux que...
Oui, en fait, eux, normalement aussi, c'est la voyelle la plus neutre. Ouais. Donc, ça marche assez bien. C'est de plus en plus employé. Hen, au lieu de han ou hun. Et c'est donc, en Norvège non plus, on n'a pas non plus pronom pour un pronom neutre.
Ouais.
En fait, si tu dis cette personne, elle marche dans la rue ou n'importe quoi.
Ouais.
On ne sait pas si.
C'est un homme ou une femme,
non.
C'est neutre.
Mais en norvégien, il faut dire han ou hun.
Ouais.
Donc, maintenant, on a hen pour... Si on veut garder c'est... le... Ou si on le sait pas. C'est pas forcément une question politique, mais parfois, c'est une question pratique. Au lieu de dire il ou elle, on peut dire... On a un pronom
quelqu'un.
Ouais.
Après, moi, j'avais une autre question. Bah, c'était qu'on s'intéresse un peu davantage à ta dernière publication.
Qui s'appelle Den som juble sist.
Bien.
Qui est sorti en 2023.
Celui qui applaudit en dernier.
Qui, c'est un jeu de mots sur... je pense que ça existe en français aussi,
qui rira le dernier.
Ah oui, c'est la même chose. Et là, c'est qui jubile le dernier. Mm-hmm. Mais en norvégien, c'est den som ler sist, den som jubler sist. Donc, c'est un peu... On sait qu'il y a une connexion là.
Mm-hmm. Et du coup, il y a un peu une ressemblance avec... Il y a un mouvement un peu Houellebecquien, en fait, ça crée un peu dans le prolongement de Houellebecq, j'ai l'impression, sur... Parce que Houellebecq, c'est une personne, finalement, qui au début, il travaillait dans un bureau, qui était en informatique.
Ouais.
Et puis, il se révèle avoir un talent littéraire incroyable. Dans son premier livre, du coup, c'est l'extension du domaine de la lutte, il va justement partir de cette situation-là.
Ouais.
Et du coup, comment dire, sans grande surprise, bah, tu vas du coup t'inspirer un peu de ça.
Peut-être un peu, parce que le départ, c'est le monde de travail. C'est en fait le monde que je décris ici, c'est la Société nationale de transport ou de chemin de fer. Mmh. C'est l'équivalent de SNCF en France, qui est maintenant en Norvège, ça a changé le nom. Le nom maintenant, c'est VU. En français, VU, V-U-E, VU, qui a plusieurs sens. Pour moi, c'est un peu bizarre parce que le but de cette société, c'est de faire marcher les trains. Mais maintenant, on se propose tellement de différents. On se propose de faire de sightseeing et de faire, comment dire, on communique avec un public qui est consommateur.
Oui, ouais. Toujours dans la consommation.
Oui, de... c'est plutôt ça. Ce n'est ouais. pas des voyageurs, c'est des consommateurs qui vont chercher des expériences, tu vois.
Il faut vendre l'expérience, oui. il faut vendre la Norvège.
Il faut vendre l'expérience. Ouais. On ne vend plus le voyage, on ne vend plus le transport, on vend le voyage. Et là, je me suis imaginé que cette société qui a eu beaucoup de problèmes en Norvège, toujours, mais de plus en plus,
ça,
il
ça
me semble.
C'est commun. Hein.
Oui, oui. Et là, je essaie de m'imaginer le. Comment dire en français, la jubilée, l'anniversaire de 175 ans qui va se dérouler en 2029.
Un petit peu en avance. Ouais. Ouais.
Dans un futur pas trop loin. C'est aussi un truc wolbeckien. De s'imaginer un futur pas trop loin. On peut exagérer son propre temps, son temps contemporain, de mettre dans un futur proche. Et c'est ça que j'ai fait aussi. Et il s'agit d'un comité qui essaie de trouver une idée pour faire toute cette jubilation pour cet anniversaire qui est un anniversaire.
Qui arrive, ouais. Ouais.
Et donc, le résultat, c'est de mettre un train qui est aussi long que la première distance de train en Norvège, entre deux villes qui c'est Oslo et une ville qui s'appelle Eidsvoll. C'est là où on a fait la constitution nationale. Et donc, le train est aussi long que le trajet. Et donc, le trajet peut commencer et se terminer exactement au même moment. Donc, on réduit le temps de transport à zéro. Donc, c'est aussi une utopie sur le temps.
Est-ce que c'est là que ça vient, le symbole de l'infini?
Oui, c'est ça.
Avec les rails, donc c'est sur la couverture.
Mais c'est une réflexion sur le temps, et sur le temps dans la modernité, dans la société moderne. Et aussi le train, c'est aussi le chemin de fer, c'est aussi le symbole de moderne, de la vitesse et de la technologie nouvelle, pas tellement maintenant, mais au début, dans la seconde moitié du 19e siècle, c'était vraiment
l'innovation,
le symbole de l'innovation du futur, de la vitesse. Et c'est aussi pour ça que je choisis le train comme sujet.
Aujourd'hui, il faut prendre le temps pour prendre le train.
Oui, oui, plutôt. Mais aussi, c'est une satire sur ce nouveau monde où on met en valeur l'expérience et beaucoup de valeurs, disons, abstraites plutôt que...
Ou superficielles.
Ou superficielles, oui. Et tu vois toutes les phrases très creuses, clichés de le monde de advertising, tu vois. Ouais.
Et tu sors ce livre comme tome 1 de la série Sistenut für Sammenbrudette, qu'on a traduit par dernière nouvelle avant l'effondrement. Est-ce que c'est une bonne traduction?
Oui, donc c'est...
Quel est le projet? Combien de temps tu penses faire? Tu voudrais faire?
Au début, j'avais l'intention de faire un recueil de nouvelles plus courtes, mais ça a grandi. Et l'idée, c'est de la science-fiction. Ça va se dérouler dans le futur. Je pense que le sujet du livre prochain, ça va être les voyages en
l'espace.
Ouais. Et aussi, tu vois, maintenant, c'est ceux qui vont faire les voyages dans l'espace, c'est plus les États.
C'est les particuliers.
C'est les gens riches, les particuliers, comme Jeff Bezos. Ouais. Et donc, c'est le
sujet. Ou ceux qui sont allés voir le Titanic, mais qui sont restés aussi.
Ouais.
Vous vous rappelez de ça?
Ouais.
Histoire compliquée. Est-ce que c'est un moyen aussi pour toi de gérer, d'avancer dans ta carrière, de vieillir, de voir le monde avec un œil différent de quand tu étais étudiant? Est-ce que cette satire, justement, c'est un peu aussi ça, de pousser le...
C'est une façon aussi de faire des commentaires sur tout le temps qui est passé depuis que... pendant que je vais grandir, que je vais devenir la personne que je vais maintenant.
Alors, est-ce que le futur, c'est beaucoup plus de traduction, ou beaucoup plus d'écriture, ou toujours un peu des deux?
Peut-être un peu plus d'écriture, c'est mon but. Je commence à vieillir. Ouais.
Bon, bah, merci beaucoup
merci à vous.
D'avoir passé cette petite heure avec nous.
Merci Thomas.
Merci beaucoup Thomas. Ouais,
merci.
Et nous, on se retrouve pour une prochaine émission très bientôt, pour Brisons la glace. On espère que cette émission vous a plu. On rappelle que l'émission est disponible sur SoundCloud, sur Spotify.
On travaille sur le reste.
Laissez-nous des commentaires si vous avez aimé cette émission. Faites-nous nous savoir. Et si vous lisez le norvégien, on peut que vous conseiller le dernier roman de Thomas Lindbo, Den som ublesist. Merci à tous les quatre d'avoir été parmi nous et à la prochaine fois. Ciao.
À la prochaine. Ciao. On se quitte avec la révélation française du moment qui s'appelle Yamé, que tout le monde veut, que tout le monde s'arrache jusqu'à Timbaland et Pharrell Williams. C'est Bécane. Yamé.
Je tourne la poigne et je froisse le temps. Je roule comme si quelqu'un m'attend. Je cale le pétard entre mes dents. Bah ouais. Je sors la bécane. Je fous la peur. Je m'en bats les couilles, c'est dangereux sa mère. Je vois que t'es pas au départ ou enfer. La bécane crie et chante de l'enfer. Sur un gros fer. Bah,